Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Judith Belair.
Merci d'avoir choisi Sud Radio et bon réveil à tous. On est avec Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique,
oui,
qui est
bonjour.
Notre invité politique.
Oui, bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Faudra travailler au moins 35 heures. Vous allez nous parler dans un instant de cet avertissement que vous lancez à certains agents municipaux et aux mairies. On va évoquer aussi le pouvoir d'achat, les réformes et bien sûr les fonctionnaires. Vous êtes en charge de la fonction publique, donc des agents hospitaliers. Près d'un lit sur cinq serait fermé dans les grands hôpitaux publics. Hein. C'est une enquête menée par Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique. Faute de soignants, dit-il. Est-ce que, déjà, vous confirmez cela ?
Alors, on est en train de faire une enquête précise, ouais, territoire par territoire, hôpital par hôpital, pour comprendre la réalité, à la fois du problème, mais surtout des causes. Parce que derrière ce chiffre, il faut bien comprendre, il y a à la fois un enjeu de recrutement. Mmh. On n'est pas sur un manque d'effectifs parce qu'on n'aurait pas de budget. On est sur un enjeu de recrutement. Faire que des personnes formées soit à l'hôpital. Il y a un enjeu de fatigue après la crise sanitaire, notamment des personnes qui ont besoin de se reposer, et on le comprend très bien. Mmh. Il y a un enjeu de conditions de travail, et derrière tout ça, il y a la politique que nous menons, qui est le Ségur de la santé, qui est le plus grand plan d'investissement, à la fois dans la rémunération des soignants, 10 milliards d'euros, et les conditions de travail, 19 milliards d'euros.
Donc vous dites que ce n'est pas une question de moyens, quoi, d'argent,
aujourd'hui,
finalement.
Aujourd'hui, nous sommes le gouvernement qui, pour la première fois depuis 20 ans, 30 ans, ouais, met des moyens à la fois d'investissement, notamment dans les petits hôpitaux et pas que dans les grands CHU, ouais, et qui y met, juste pour que les Français se souviennent, en 2007, le plan hôpital, c'est 6 milliards d'euros. En 2012, sous François Hollande, c'est 2 milliards d'euros d'investissement. Là, on parle de 19 milliards d'euros et on parle de 10 milliards pour les salaires des soignants. Ouais. Tous les soignants, tous les personnels des hôpitaux gagnent maintenant au moins 183 euros de plus par mois que s'il gagnait avant. Alors moi, je voudrais vous dire, sur ce sujet, quand je vois qu'une Madame Hidalgo, parce qu'elle lit le journal...
Ah bah, elle lance un grand plan, elle veut un Marshall des hôpitaux.
Bah, hein. J'aimerais que les gens ils regardent un peu, vous voyez, qu'ils balayent devant leur porte. Parce que s'il y a bien une chose que le Parti Socialiste, au pouvoir, de 2012 à 2017, a fait, c'est qu'il a poursuivi la case de l'hôpital, c'est qu'il a contraint les moyens, c'est qu'il n'a pas augmenté les salaires, c'est que la situation dont on hérite aujourd'hui, elle est héritée de ce que Xavier Bertrand faisait quand il était ministre de la Santé, puis de ce qu'a fait le Parti Socialiste. Ouais. Je vous donne un exemple.
Donc le Parti Socialiste avec Olivier Véran et également Gabriel Attal, qui était au cabinet de Marisol Touraine, au ministère de la Santé.
C'est les décisions budgétaires, c'est des choix politiques, c'est des choses qui sont portées par le président de la République, par les premiers ministres. Et il y a une chose que je veux rappeler. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où le numerus clausus, qui est le cœur de la contrainte de pourquoi on n'a pas forcément assez de médecins. Nous sommes le premier gouvernement, depuis maintenant 25 ans ou 30 ans, à avoir dit que cette politique ne fonctionnait pas. Nous avons aujourd'hui 17 000 étudiants en deuxième année de médecine. Nous avons créé 6 000 nouvelles places de formation d'infirmières l'année dernière. Et donc, on met tout ce qu'on peut faire pour que l'hôpital français, après avoir tenu pendant la crise,
renforcé. J'entends, Amélie de Montchalin. Mais là, face à cette situation qui est quand même un peu urgente, un lit sur cinq de fermé, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, est-ce qu'il faut redéployer ? Et on dit souvent aussi qu'il y a trop d'administratifs et pas assez de soignants. Et il y a aussi des infirmières qui sont découragées, qui s'en vont vers d'autres professions.
Il y a des enjeux de court terme. Et c'est là qu'on va faire, avec Olivier Véran, il l'a annoncé, une étude hôpital par hôpital, service par service, pour déjà comprendre où sont les besoins et comment on peut y répondre avec des éléments de court terme. Mais les soignants, les infirmières, les médecins, ça se trouve pas sur les arbres, ça demande du temps. C'est pour ça qu'on investit dans les écoles de formation d'infirmières, c'est pour ça que je vous rappelle la fin du numerus clausus. Vous avez entendu parler de ce sujet pendant 20
des
ans.
Années,
Et donc aujourd'hui, nous avons à réparer une situation que nous avons héritée de quinquennat, au fond, de faiblesse, d'hypocrisie, et aujourd'hui, évidemment, nous mettons tous les moyens sur la table. Le sujet n'est pas l'argent, le sujet aujourd'hui est effectivement des conditions de travail, de l'organisation de l'hôpital. Autant de sujets qui sont au cœur de ce que nous faisons. Et donc, nous avons aussi, je crois, collectivement, nous, Français, à soutenir
établissement
ceux
par
et
établissement,
celles qui travaillent partout en France.
Ouais, établissement par établissement, vous allez lancer, en fait, cette enquête, quoi.
Et une enquête, mais surtout de trouver des solutions dans chaque territoire, et de remobilisation.
Vous donnez quel terme, à peu près, pour trouver des solutions ?
Olivier Véran l'a dit, c'est une question de jours, de semaines. Et c'est au fond, on sait que l'hiver est toujours une période difficile dans les hôpitaux. Et donc, on a une double obligation, j'allais dire, de mobilisation.
Oui, et difficile de recruter du personnel qui n'existe pas forcément sur le marché, c'est ça ? Ou alors, il faudrait le faire venir de l'étranger, peut-être ?
Non, mais c'est refaire revenir dans nos hôpitaux des personnels, c'est leur donner des conditions de travail
adaptées. Les infirmières espagnoles, vous vous souvenez, il y a quelques années ?
Aujourd'hui, on n'en est pas, là. Tous les pays européens, après la crise sanitaire, ont des enjeux de remobilisation dans les hôpitaux. Donc, on travaille sérieusement, mais je tiens à dire, arrêtons la démagogie. Que ceux et celles qui ont eu en responsabilité ce sujet depuis 20 ans et qui n'ont rien fait, ou qui ont laissé plutôt l'hôpital s'affaiblir, ne viennent pas donner les leçons à coups de grandes phrases et de commentaires de une de journaux.
Oui, autre sujet que vous allez remettre au centre du jeu, vous avez parlé d'Anne Hidalgo à l'instant, vous voulez procéder à une opération vérité sur le temps de travail dans les municipalités notamment, et à la mairie de Paris, c'est ça ? Parce qu'on travaille 32 heures, grosso modo,
parfois. De quoi on parle ? Ouais. Depuis 20 ans, tous les Français savent que le temps de travail, c'est 35 heures.
Ouais.
Nous avons, avec le président de la République, acté qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait une exception dans certaines communes et qu'il n'y ait pas une exception de différence entre le privé et le public ou de différence entre les agents entre eux. Parce que moi, je pense qu'au cœur de l'identité française, il y a la valeur travail. En tant que ministre de la fonction publique, mon objectif, c'est deux choses. C'est d'abord que l'action publique fonctionne mieux, qu'elle soit plus efficace, mais c'est aussi que les agents publics soient mieux payés. Comment on fait pour mieux payer les gens ? Bah, on s'assure qu'ils travaillent le temps de travail à minima 35 heures. Je tiens à
minima,
dire que...
c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à 39 heures et beaucoup plus. Quoi,
et il y a plein de gens qui travaillent beaucoup et qui sont d'ailleurs rémunérés pour cela.
Ouais.
Moi, je trouve que l'équation qui est de dire on travaille moins et on est moins payé, c'est pas une bonne équation. C'est pour ça qu'en tant que ministre, j'ai acté qu'on revalorisait tous les salaires des catégories C, des 1,2 million d'agents qui sont les moins bien rémunérés, mais en échange, on demande aux élus, on demande aux agents publics de s'engager à travailler 35 heures. Moi, je vais vous poser des choses très simples.
Ouais.
Il y a des mairies comme, par exemple, Montpellier. J'ai rencontré le maire Michael Delafosse,
oui.
Il y a quelques jours, dans mon bureau.
Ouais.
Michael Delafosse, il est élu depuis 2020.
Ouais.
Il a pris le sujet à bras-le-corps, il a négocié. Sa mairie passe aux 35 heures au 1er janvier 2022. Les agents sont augmentés.
Ouais.
Et donc, c'est un accord qui est gagnant et pour le service public et pour les agents. Et donc, ça avance. Je ne comprends toujours pas pourquoi Madame Hidalgo considère que ce serait une bonne mesure que de garder un temps de travail inférieur à 32 heures, de se retrouver devant le tribunal...
Inférieur en plus à 32 heures,
dans certains domaines.
Dans certains
que,
domaines.
Que, d'ailleurs, elle se retrouve au tribunal administratif contre l'État, dans une position qui est incompréhensible, et qui surtout crée de l'inéquité, là où je l'entends être une femme de gauche, qui, je crois, croit à l'égalité. Et donc, c'est un combat qui est un combat politique, qui est un combat qui, à mon avis, est un combat perdant, et pour le service public, et pour les agents.
Oui.
Et donc, j'ai demandé
au préfet...
Vous
allez faire un état des lieux, alors, c'est ça ?
Exactement, j'ai demandé au préfet de, d'ici à vendredi, me faire remonter la situation de chacune des communes de France, pour qu'on puisse avoir une vérité sur où est-ce que les 35 heures sont déjà appliquées, où est-ce qu'elles seront appliquées au 1er janvier, où est-ce qu'il y a encore des réfractaires ou des difficultés, et on va jouer carte sur table.
Ouais.
Parce que c'est aussi un enjeu de responsabilité, de bonne gestion, de confiance avec les Français.
Ouais.
Et donc, je pense qu'à un moment donné, cette transparence, elle est nécessaire.
Amélie de Montchalin, c'est moins dans vos compétences, entre guillemets, mais c'est une question d'actualité, avec le conflit de la pêche en Manche, là, actuellement, avec les Britanniques. Il y a deux bateaux anglais qui ont été interpellés, verbalisés en baie de Seine cette nuit. C'est le début de la guerre avec les Britanniques parce que les négociations ont été malmenées sur le Brexit.
Les négociations, j'étais d'ailleurs à ce moment-là ministre des Affaires européennes, elles ont été menées avec des principes très simples et très clairs et de grand bon sens. On acte des accords et on les fait respecter. Et s'ils ne sont pas respectés, il y a des rétorsions.
Ouais.
Bah, dans l'accord, il y a l'accès aux licences de pêche pour les pêcheurs français. Si ces licences ne sont pas données pour des raisons qui ne sont pas des raisons de fond, mais qui sont des raisons politiques, eh bien nous en tirons des conséquences. Et la France et l'Europe ne vont pas être faibles. Donc on n'est pas en train, là, les mots que vous employez ne sont pas les bons, mais nous sommes en train...
Ah bah c'est pas les bons, quand même, on les a raisonnés à partir de la semaine.
On va parler de guerre, on n'est pas en train de militariser...
Attendez, parfois il y a eu, quand même, vous l'avez vu, des conflits en mer, c'est important.
Le but, c'est pas de militariser la Manche. Non. Le but, c'est de faire respecter les accords. Et quand ils ne sont pas respectés, d'avoir des mesures de rétorsion.
Ouais.
Et nous sommes sur ce sujet, très ferme, très clair, le sujet est connu. Les rétorsions étaient prévues.
Ouais.
Donc on n'est pas du tout dans
mais
une fuite en avant.
Est-ce que les négociations avaient été malmenées ? Je dis ça parce que c'était Michel Barnier qui était en fait en charge de ces négociations. C'est votre adversaire aujourd'hui.
Non, mais Michel Barnier, d'ailleurs, sur l'Europe, il dit des choses où il renie une partie d'ailleurs de ce qu'il portait quand il était commissaire européen.
Ouais.
Donc moi, on l'a connu avec le président de la République, avec d'ailleurs tous les dirigeants européens comme un négociateur, qui a acté un accord avec des mesures claires sur ce qu'il y avait dans l'accord et ce qui se passait s'il n'était pas respecté. C'est ça qu'on fait appliquer aujourd'hui.
C'était un bon accord. Il avait quand même bien négocié.
Non mais on a très bien négocié.
Oui.
On a très bien négocié parce qu'on a fait respecter des principes d'égalité et surtout des principes qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas aux pêcheurs français, aux entreprises françaises de payer les factures du Brexit. Vous remarquez d'ailleurs que les Britanniques, aujourd'hui, la vie quotidienne au Royaume-Uni n'est pas simple.
Oui, Amélie de Montchalin, vous allez aller sur le terrain avec Gabriel Attal, dans le Tarn, près d'Albi, en fait, demain, notamment aussi pour assurer le service après-vente sur le pouvoir d'achat et la fameuse indemnité inflation. Qu'en est-il exactement aussi pour la fonction publique, pour les agents de la fonction publique sur cette prime ? Est-ce qu'ils vont la toucher également ou pas ?
Alors, évidemment, Nous avons choisi une mesure simple et lisible. Tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois sont concernés. Ça concerne des centaines de milliers d'agents publics. Mais vous savez, appuyer sur le bouton, c'est pas toujours extrêmement simple. C'est-à-dire qu'il y a 50 000 employeurs territoriaux.
Ouais.
Et il faut qu'on fasse les choses de manière fiable. Donc aujourd'hui, on est en train de préparer pour qu'il y ait tout le monde soit bien concerné, que tout le monde reçoive bien la prime le plus rapidement possible.
Qui peut la toucher.
Qui est concerné, évidemment. Ouais. Qui n'est pas d'oubli. On fait des choses fiables et précises. Mmh. Et les engagements seront tenus. Après, vous avez parlé du Tarn. Et ouais. Je pense qu'on n'est pas là pour faire de la promotion.
Ouais.
On n'est pas là pour faire de la publicité. Ouais. Et quand vous êtes en responsabilité, et comme le président de la République l'a toujours dit depuis 2017,
ouais.
Faire de la politique, c'est tenir des engagements. C'est pas d'être dans un débat politique de grandes idées. Mmh. Vous savez, on parlerait des Français sans échanger avec eux. Pourquoi on va dans le Tarn avec Gabriel Attal?
Ouais.
On y va parce que nous avons aujourd'hui, dans une campagne ou une pré-campagne, la sensation que le débat politique ne se fait pas de la bonne manière. Nous avons un bilan, nous avons agi. Nous avons agi pour les classes moyennes. Nous avons agi pour la conversion des véhicules, la rénovation énergétique du bâtiment, le 100% santé pour que vos, par exemple, les lunettes, aujourd'hui, on voit que ça ne marche pas aussi bien que pour le dentaire ouais. ou pour l'audition. Mmh, mmh. Bref, parler aux Français de ce que nous avons fait pour eux, mais là où ils sont.
Ouais.
Parce que moi, mon
donc
enjeu,
vous êtes en campagne électorale, quoi.
Non,
hein,
depuis le mois de janvier, moi ouais. j'ai un enjeu, c'est l'efficacité de l'action publique.
Mais oui, bah, non, mais c'est qu'est-ce en campagne électorale, vous préparez la présidentielle
mais
là,
vous
en
savez,
faisant ça.
Il y a très peu de campagnes électorales où les ministres allaient sur le terrain défendre le bilan. Ouais. Il y a plein de gens qui nous disent, le bilan ça sert à rien.
Dites-moi,
moi
attendez,
je pense que
Amélie
c'est Monchalin, majeur.
Là vous m'avez parlé en fait de la prime pour la fonction publique quand même. À peu près combien de personnes concernées? Vous avez évoqué peut-être 50 000, non plus, beaucoup plus que ça, non?
Non, on est sur, vous savez, il y a 5,5 millions d'agents publics.
Ouais.
Donc c'est à peu près 2 millions de personnes.
Ouais.
Sur les 38 millions dont on parle, ce sont des agents publics qui aujourd'hui travaillent. Et donc ce sont des agents pour lesquels nous nous organisons pour que, comme nous l'avons oui. Annoncé, les primes soient bien versées.
Et je quand reviens décembre, janvier, février.
Le plus vite possible et surtout de manière la plus fiable possible.
Ouais.
Et donc entre décembre et janvier, les Français auprès desquels nous avons pris des engagements seront voilà. Mais je reviens sur mon histoire de bilan.
Oui.
Pourquoi on fait ça?
Oui.
La politique, c'est pas du blabla, c'est du sur-mesure. C'est de s'assurer que chaque Français, là où il vit, dans le Tarn, dans les Ardennes, du nord au sud de la France, dans un petit village ou dans une grande ville, nous, politiques, nous, ministres, nous puissions voir ce qui a été fait
ouais.
et aussi assumer, peut-être que d'ailleurs certaines choses sont encore à faire. Ce dialogue de vérité, ce dialogue d'authenticité, c'est ce qui permet de faire le lien entre le rêve français,
ouais.
la vision, ouais. le cap, et la manière dont ça se concrétise dans la vie quotidienne. Vous savez, pendant des années, les politiques disaient la vie quotidienne, c'est pas intéressant, c'est pas au bon niveau. Moi, je suis convaincu du contraire.
Ouais.
Ce qui fait que l'abstention recule, ce qui fait que les politiques retrouvent la crédibilité, c'est que nous soyons capables d'engager sur le terrain à portée d'engueulade.
Bah oui, non, bien sûr, à portée d'engueulade, vous allez vous faire engueuler parce que vous dites on va aller montrer ce qui marche, mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas quand même.
Mais
quoi,
vous,
vous avez vu les hôpitaux, le pouvoir d'achat, évidemment. L'insécurité, par exemple. Est-ce que nous étions tout à l'heure avec un représentant des policiers du côté d'Alençon, avec ce qui s'est passé? Il dit dans toutes les petites villes, en fait, aujourd'hui, dès qu'on attaque en fait, les dealers, ils répliquent. On a besoin d'effectifs supplémentaires. Est-ce que là, il peut y avoir un redéploiement dans les quartiers d'effectifs supplémentaires?
Ce n'est pas non seulement qu'il peut y avoir, c'est la politique de fermeté et de redéploiement que nous menons. Je vous rappelle juste, qu'est-ce qui s'est passé dans la police? La droite, la fameuse RGPP, 12 000 policiers de moins. Énorme désorganisation, faiblesse de l'État. Aujourd'hui, dans notre gouvernement, nous avons redéployé 10 000 policiers sur le terrain, dans les petites villes, là où les Français attendent de la sécurité et de la fermeté. Et ces 10 000 personnes, c'est du redéploiement parce que nous n'avons pas augmenté le nombre total de fonctionnaires.
Bon, et il en manque encore, visiblement, d'après ce qu'on a cru comprendre.
Je reviens sur ce que vous dites. Oui. Les Français, quand vous dites le pouvoir d'achat, l'emploi, la santé...
L'insécurité.
Bon, il y a des grandes thématiques.
Oui.
Mais ces sujets-là, ils ne se vivent pas pareil selon l'endroit du pays où vous
bien
êtes,
sûr,
ils ne
bien
se
sûr.
Vivent pas pareil.
Bien sûr. Comme
si
la
vous êtes,
sécurité, comme
une
la
mère
sécurité.
De famille, une personne retraitée, ouais. un entrepreneur.
Ouais.
Et vous voyez, depuis moi le janvier,
ouais.
toutes les semaines, je suis dans un département différent
ouais.
pour aller chercher les résultats, politique ouais. par politique, voir ce qui marche bien,
ouais.
voir ce qui marche moins bien. Comment, si ça marche moins bien, on s'organise et comment on s'organise pas seulement l'État, l'État avec les élus, l'État avec les Français eux-mêmes, l'État avec les citoyens,
dernier mot,
entreprises.
Amélie de Montchalin, est-ce que vous sentez que le pays est inflammable quand on voit des menaces d'attentats d'islamistes radicaux qui reviennent régulièrement, des sympathisants aussi d'ultra-droite comme le groupuscule de Rémi Daillet dont on parle en fait ce matin, vous le sentez ça en fait, cette atmosphère délétère?
Non, ce que je sens, c'est qu'être aux responsabilités, ce que nous sommes. C'est sujet par sujet, avec beaucoup de clarté, beaucoup de fermeté, beaucoup de responsabilité, prendre chaque jour et chaque minute des décisions au service des Français. Vous savez, aujourd'hui, on a un débat où d'un côté, on a des partis qui ont un passé. La droite et la gauche, elles ont un passé. Nous, on a une action et un bilan. Et puis, vous avez des gens qui écrivent des livres, qui se lancent dans des grands débats.
Éric Zemmour, vous voulez
moi,
pas le nommer.
Moi, je pense que le débat politique et la responsabilité des hommes et des femmes politiques, c'est d'assumer leur passé quand ils ont passé, c'est de présenter un bilan de manière authentique dans ce qui a très bien fonctionné, peut-être moins bien fonctionné, le faire avec les Français, sans parler d'eux de loin, et d'assumer que nous avons, sur tous ces sujets, à recréer de la crédibilité, de la confiance. C'est ça notre combat. Et le président de la République a toujours dit « Je m'engage à changer votre vie quotidienne, pas à être dans les grands discours, mais je m'engage surtout à vous rendre compte, à venir vous voir là où vous êtes, pour que département par département, et vous savez que tous les Français peuvent, sur le site du gouvernement, voir ce qui a été fait dans leur département, depuis 2017,
et vous serez
en vérité
sur le terrain,
et en responsabilité.
Ce week-end, demain,
et avec Gabriel,
dans le
nous partons cet après-midi, effectivement, dans le
Tarn. Avec Gabriel Attal, vous lui direz au passage de venir à Sud Radio, parce qu'il n'est toujours pas venu. Amélie de Montchalin, merci, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.